Alléluia. Amen. Merci. Amen. Quelle joie de cette opportunité de partager ensemble, frères et sœurs, de louer ensemble le roi des rois. Amen. Donc, pasteur donne sa bienvenue. Il prêche à Cézanne ce matin. Donc, priez pour lui. En fait, pourquoi pas prier pour lui maintenant? Probablement, il a commencé à prêcher comme moi ici. Donc, on prie pour lui et on prie pour le message ce matin. Prions. Merci, Seigneur, pour ta grâce, Seigneur. Que tu es ici avec nous. Mais aussi, Seigneur, tu es au Cézanne, Seigneur. Tu es à Tonnerre, Seigneur. Tu es partout dans le monde, Seigneur. Et n'importe où nous allons, Seigneur, tu es là avec nous, Seigneur. Merci pour ton amour vers nous, Seigneur. Et pour ta grâce. Seigneur, je prie pour chaque personne ici, Seigneur. Moi, même aussi, Seigneur. Que nous entendons ta voix, Seigneur. Et on partage ce que tu dis, Seigneur, avec nos entourages. En ton nom, je prie. Amen. Amen. Donc, c'est un message qu'on prêche. C'est pour vous encourager. Certains messages, c'est pour peut-être corriger. Et des autres messages, c'est plutôt en formation. Et cet message ici, c'est plutôt ça. C'est plutôt un message apologétique. C'est pour comprendre pourquoi on croit ce qu'on croit. Je vais lire chapitre 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15. Presque tout le chapitre. Ça va? Oui. C'est un peu long. Mais je pense que c'est important. 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 1. C'est là sur l'écran? D'accord. Frères et sœurs, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et auquel vous demeurez attachés. C'est par cet évangile que vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous ai l'annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance ce que j'avais même moi-même reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau. Il a ressuscité le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Verset 5. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Après cela, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart vivent encore aujourd'hui. Quelques-unes d'entre eux seulement sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres, et tout le dernier lieu. Et en tout dernier lieu, il m'a apparu à moi comme un enfant né après terme. Oui, je suis le moindre des apôtres. Je ne mérite pas de porter le titre d'apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Ce que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois. Et cette grâce qui m'a témoigné n'a pas été inefficace. Loin de là, j'ai peiné à la tâche plus que tous les autres apôtres. Non pas moi, certes, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Bref, que ce soit eux ou que ce soit moi, voilà le message que nous proclamons et voilà aussi ce que vous avez cru. Or, si nous proclamons que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils prétendre qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Verset 13. S'il n'y a pas de résurrection des morts, alors Christ, lui non plus, n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu, et votre foi est sans objet. Il n'y a plus. S'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, nous devons être considérés comme des faux témoins à l'égard de Dieu. En effet, nous avons porté témoignage que Dieu a ressuscité Christ. Mais s'il est vrai que les morts ne suscitent pas, il ne l'est pas fait. Car si les morts ne peuvent pas revivre, Christ non plus n'est pas revenu à la vie. Verset 17. Or si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion et vous êtes encore sous les poids de vos péchés. De plus, ceux qui sont morts unis à Christ sont à jamais perdus. Si c'est seulement pour la vie présente que vous avez mis notre espérance en Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Mais en réalité, Christ est bien revenu à la vie, et comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. 21. Car tout comme la mort a fait son entrée dans ce monde par un homme, la résurrection vient aussi par un homme. En effet, de même que tous les hommes meurent du fait de leur union avec Adam, tous seront ramenés à la vie du fait de leur union avec Christ. Amen. Verset 23. Mais cette résurrection s'effectue selon un ordre bien déterminé. Christ est ressuscité en premier lieu, comme le premier fruit de la moisson. Ensuite, au moment où il reviendra, ceux qui lui appartiennent ressusciteront à leur tour. Puis viendra la fin, lorsque Christ remettra la royauté à Dieu, le Père, après avoir réduit à impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance hostile. Il faut en effet qu'il règne jusqu'à ce que Dieu ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Car comme il est écrit, Dieu a tout mis sous ses pieds. Mais quand l'Écriture déclare, tout lui a été soumis, il faut de toute évidence en accepter celui qui lui a donné cette domination universelle. Et lorsque tout se trouvera ainsi amené sous autorité de Christ, alors le Fils lui-même se placera sous l'autorité de celui qui lui a tout soumis. Ainsi Dieu sera tout en tous. Allez au verset 35. Mais rendra peut-être quelqu'un, comment les morts ressusciteront-ils? Avec quel corps reviendront-ils à la vie? Insensé que vous êtes, dans la nature, la graine que vous semez ne peut répandre vie qu'après être passée par la mort. Lorsque vous faites vos semailles, vous ne mettez pas en terre le corps de que la plante aura quand elle aura poussé, mais une simple graine. Un grain de blé, par exemple, ou quelques autres semences. Et Dieu lui donne le corps qu'il veut. À chaque semence correspond un corps particulier. Tous les êtres vivants n'ont pas non plus la même chair. Les hommes ont leur propre chair. Les animaux en ont une autre. Les oiseaux, un autre encore. Une autre aussi, les poissons. De même, nous distinguons le corps des astres de ceux des créatures terrestres. Chacun d'entre eux a son aspect propre. Le soleil a son propre éclat, de même que la lune, et le rayonnement des étoiles est encore différent. Et chaque étoile même brille d'un éclat particulier. Il en va de même pour la résurrection. Lorsque le corps emporté en terre, comme la graine qu'on sème, il est corruptible, et il ressuscite incorruptible. Semé infirme et faible, il ressuscite plein de force et glorieux. Ce qu'on l'enterre, c'est un corps doué de la seule vie naturelle. Ce qui revit, c'est un corps dans lequel règne l'Esprit de Dieu. Aussi vrai qu'il existe un corps doté de la seule vie naturelle, il existe aussi un corps régi par l'Esprit. L'Écriture ne déclare-t-elle pas, le premier homme, Adam, devint un être vivant, doué de la vie naturelle? Le dernier Adam est devenu, lui, un être qui, animé par l'Esprit, communique la vie. Verset 46. Mais ce qui vient en premier lieu, ce n'est pas ce qui appartient au règne de l'Esprit. C'est ce qui appartient à l'ordre naturel. Ce qui appartient au règne de l'Esprit ne vient qu'ensuite. Le premier homme, formé de la poussière du sol, appartient à la terre. Le second homme appartient au ciel. Or, tous ceux qui ont été formés de poussière sont semblables à celui qui a été formé de poussière. De même aussi, ceux qui appartiennent au ciel sont semblables à celui qui appartient au ciel. Et comme nous avons porté l'image de l'homme formé de poussière, nous porterons aussi l'image de l'homme qui appartient au ciel. Ce que je dis, frères et sœurs, c'est que notre corps de chair et de sang ne peut accéder au royaume de Dieu. Ce qui est corruptible ne peut avoir part à l'incorruptibilité. Voici, je vais vous révéler un mystère. Nous ne passerons pas tous par la mort, mais nous serons tous transformés. En un instant, un clin d'œil, au son de la trompette dernière. Car lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles. Tandis que nous, nous serons changés. En effet, ce corps corruptible doit se revêtir incorruptibilité, et ce corps mortel doit se revêtir d'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors se trouvera réalisée cette parole de l'Écriture. La victoire totale sur la mort a été remportée. Ô mort, qu'est devenue ta victoire? Ô mort, où est ton dard? Le dard de la mort, c'est le péché, et le péché tire sa force de la loi. Mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, soyez fermés. Ne vous laissez pas ébranler. Travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n'est pas inutile. Amen.
Amen.
Amen. Est-ce que vous savez déjà que le nom de Jésus, si précieux, si puissant, qu'on fait, c'est une traduction? La maman de Jésus n'a jamais appelé son fils Jésus. Car à ce temps-là, il n'y avait pas encore la langue française que nous parlons aujourd'hui. Quand la maman de fils de Dieu appelait son fils, elle l'appelait Yeshua. C'était comme ça qu'on prononçait son nom, Yeshua. Et quand les autres parlent de lui, c'était Yeshua ben Nazareth. Yeshua, son nom, ben Nazareth, c'est la ville où il vient. Puisqu'on va parler beaucoup de notre Messie aujourd'hui, je veux que tout le monde comprenne ça. Son nom, c'est Yeshua, en français, Jésus. Donc, la résurrection de Yeshua ben Nazareth, vrai ou faux? Il y a trois raisons de croire que la résurrection de Yeshua ben Nazareth est un événement historique. Il y a le tombeau vide, il y a les disciples et il y a l'Église. Je vais commencer par le tombeau vide. Donc, les femmes qui sont venues au tombeau ont découvert que le tombeau était vide dimanche matin après la crucifixion. Pourquoi c'est important ça? Les disciples ont commencé à prêcher dans la ville où Jésus avait été enterré quelques jours avant. Si ce n'était pas vrai, personne ne les aurait cru, parce qu'ils auraient pu toujours voir le corps dans le tombeau. Si tu dis Jésus est ressuscité, et tu regardes dans le tombeau et il est encore là, tu ne crois pas. Leur message aurait été éteint dans une heure, si ce n'était pas vrai que le tombeau était vide. Deuxièmement, les chefs des prêtres ont essayé de dire que les disciples avaient volé le corps. Alors même les chefs des prêtres, les ennemis de Jésus, ont constaté que le tombeau était vide. Si le tombeau n'était pas vide, ils n'auraient pas eu besoin d'inventer des histoires comme ça. Troisièmement, l'évangile de Marc a été écrit environ sept ans après la résurrection. Ça, ce n'est pas assez de temps pour créer une légende. C'est trop récent. Et si ce n'était pas vrai, des milliers de personnes l'auraient rejeté. Mais au lieu de le rejeter, ils se sont convertis. Quatrième, Jésus avait été enterré dans le tombeau de Joseph d'Arimathée, qui était trop connu à Jérusalem pour qu'on puisse inventer des histoires de son tombeau. Joseph aurait montré le corps de Jésus s'il était là pour finir avec les disputes. Cinquième point. Le tombeau n'était pas considéré comme un lieu saint. À cette époque-là, c'était normal de construire un lieu saint au tombeau d'un homme saint. Mais le tombeau où Christ était placé n'est pas devenu un lieu saint parce que l'homme saint n'était plus là. C'était juste un tombeau vide. Sixième point, Marc raconte l'histoire simplement, comme quelqu'un qui dit ce qui s'est passé, sans drame. Quelqu'un qui invente une belle histoire pour faire plaisir à ses écouteurs ne parle pas comme ça. Il va embellir, il va dire avec drame, il va influencer les gens, mais il a dit l'histoire juste simplement. Sept, c'est les femmes qui ont découvert que le tombeau était vide. Mais le témoignage d'une femme à cette époque-là n'avait pas beaucoup de valeur. Si quelqu'un avait inventé une histoire, il aurait écrit que c'était des hommes comme témoins, pas les femmes. Mais c'était les femmes qui ont premièrement trouvé que le tombeau était vide. Huitième point. Il n'y avait pas de motivation à ce temps-là de voler le corps. Les ennemis de Jésus voulaient montrer le corps à tout le monde pour que tout le monde sache que Jésus était mort. Donc il n'a pas volé. Et les amis de Jésus ne voulaient pas le voler à être battus, persécutés, tués. La seule explication, c'est que le tombeau était vraiment vide. D'accord. Les disciples ont vraiment rencontré celui qui croyait était le Messie après la résurrection de la mort. Puisque nous avons le témoignage des disciples originaux, il n'y a pas beaucoup qui opposent ce qu'ils disent. Qu'ils ont rencontré celui qui croit était le Messie après la résurrection de la mort. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 3 à 8, c'était écrit probablement après 5 de 7 ans après la résurrection de Jésus. Je vais lire versets 3 à 8. Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance ce que j'avais moi-même cru. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau et est ressuscité le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Après cela, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart vivent encore aujourd'hui. Quelques-uns d'entre eux seulement sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et tout dernier lieu, il m'est apparu à moi, comme à un enfant né après terme. C'est ce que Paul a écrit. Pour les disciples et le témoignage, il y a trois possibilités. Un, il mentait. Deux, il avait des hallucinations. Ou troisièmement, ils ont vraiment vu le Messie après sa résurrection de la mort. Mais s'ils mentaient, pourquoi est-ce que 10 d'entre eux ont volontairement donné leur vie pour avoir cru dans la résurrection? Ce n'est pas possible qu'ils se sont trompés, que Jésus était mort et ils se sont trompés en croyant qu'il était vivant. S'il n'était pas vivant, les disciples auraient su. Et 10 personnes ne vont pas donner leur vie pour ce qu'ils savent est un mensonge. Parce que tout le monde admet que les disciples croyaient dans la résurrection du Messie. Mais quelques suggèrent que c'était une hallucination. Ils n'ont pas vraiment vu Jésus, c'est juste une impression dans leur tête. Mais ce n'est pas possible. Parce que les disciples ont mangé et bu avec Jésus. Ils ont touché son corps. On ne peut pas faire ça avec une hallucination. Aussi, si c'était une hallucination, pour chacun, ils n'auraient pas en tous la même hallucination. Car les hallucinations sont très individuelles. Donc chaque personne va voir quelque chose un peu différent. Et en plus, Paul l'a vu, Jésus. Et il s'opposait à Jésus. Alors son cerveau n'aurait pas inventé une hallucination de Jésus. Donc puisque les disciples ne mentaient pas, Et ce n'était pas une hallucination. Il ne nous reste qu'une explication. Ils ont vraiment vu le Messie vivant après sa résurrection de la mort. Et le troisième, l'Église, nous. Les disciples ont prêché la résurrection du Messie et le résultat était l'Église. Qui était établi et qui grandissait. Les sceptiques croient au moins que les disciples étaient convaincus de la résurrection, puisque la résurrection était avant l'Église. Cette vérité n'a pas été inventée par l'Église, mais la résurrection est dans la fondation d'Église. C'est à cause de la résurrection qu'il y a une Église aujourd'hui. Est-ce que la résurrection pourrait être produite par des influences païennes? Il y avait à ce temps-là des mythologies de Dieu qui meurt et se lève de la mort. Est-ce que c'est possible que les disciples aient adopté ou copié une de ces histoires? Non. Ces religions, avec les dieux qui meurent et qui se lèvent, n'étaient pas connues en Israël à ce temps-là. En plus, ces religions ont commencé après la résurrection du Messie. En plus, ces histoires ne sont pas pareilles. Chacun est différent. En plus, les disciples étaient juifs qui auraient en horreur de tout ce qui est païen. C'était peut-être des idées juives. Non, parce que les juifs n'avaient pas l'idée de la résurrection d'une personne. Pour eux, la résurrection serait toujours tout le monde à la fin du monde. C'est une autre raison pour nous assurer que ce n'était pas une hallucination. On n'a pas une hallucination d'une nouvelle idée. Les hallucinations répètent ce que nous avons déjà dans la tête. Donc, sans la résurrection, il n'y aura pas d'Église. Donc, trois inexplicables. Le tombeau vide, les disciples, l'Église. Si nous nions la résurrection, nous avons trois inexplicables. Mais ce n'est pas un mystère inexplicable. Ce qui est raisonnable, c'est que la résurrection est un événement historique. Trois faits, chacun tout seul, proclament la vérité de la résurrection. Ensemble, la vérité devient très facile à voir. La résurrection est la seule hypothèse qui explique toute preuve. Si nous la nions, nous avons trois explications à faire. Ce qui est le plus raisonnable, c'est de constater que le Messie est ressuscité des morts. Amen. Quelques-uns disent aujourd'hui, c'est une légende, pas une histoire vraie. Une autre hypothèse, la résurrection est une légende qui s'est développée au fil des siècles. Mais ce n'est pas une légende. Nous avons les témoignages directement des disciples d'origine, ceux qui l'ont expérimenté, qui ont vu, qui ont parlé avec le Messie après la résurrection. Ce n'est pas une légende. Une légende n'explique pas le tombeau vide. Paul n'aurait pas été converti par une légende. Il s'opposait aux disciples. Ce n'est pas une légende. L'évangile de Marc a été écrit entre 5 et 7 ans après la résurrection. Les légendes se développent pendant très longtemps, des siècles. Marc ne raconte pas la vie, la mort, la résurrection du Messie avec un style littéraire d'une légende. Il a dit simplement ce qu'il a vu. L'Église a commencé après la résurrection. Même le livre Actes des Apôtres a été écrit avant l'année 64. Donc au maximum 34 ans après la résurrection. Il faut plus de temps pour qu'une légende se développe. Donc pourquoi est-ce que la résurrection est si importante? La résurrection est une preuve que ce que Jésus a dit est vrai. Jésus a dit qu'il est Dieu. Si Jésus était toujours mort, il ne serait pas raisonnable de croire qu'il est Dieu. Mais puisqu'il est vivant, puisque la résurrection est un événement historique, Il est raisonnable de croire aussi ce qu'il a dit, qu'il est complètement Dieu et complètement homme. Mais puisqu'il est vivant, puisque la résurrection est un événement historique, et il est raisonnable de croire aussi ce qu'il a dit, que la Bible est vraie, que la Bible est notre autorité. Il y a beaucoup d'hommes qui disent qu'on ne peut pas croire tout ce que la Bible dit. Mais est-ce que nous allons faire confiance à ces hommes, ou est-ce que nous allons faire nous confier à celui qui est ressuscité des morts? Nous pouvons nous confier à Jésus. Mais puisqu'il est vivant, puisque la résurrection est un événement historique, il est raisonnable de croire aussi ce qu'il a dit. Jésus a dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis, moi, le chemin, répondit Jésus, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Jésus est le seul qui était mort et qui est vivant. Nous pouvons être confiantes qu'en suivant Jésus, nous avons trouvé la vérité et la vie. Les religions de ce monde ne peuvent pas tous venir de Dieu parce qu'ils se contredisent. Ils se contredisent ce que Dieu a dit. Mais nous avons la vérité et la vie. Amen. Donc la résurrection de Messie annonce la résurrection pour nous qui croyons en lui. En Corinthiens 15, verset 20. Mais en réalité, Christ est bien revenu à la vie, et comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. Puisque Jésus est mort, puisqu'il est revenu à la vie, il annonce la résurrection des morts à tous ceux qui se décident de le suivre. Amen. Mais puisqu'il est vivant, puisque la résurrection est un événement historique, il est raisonnable de croire aussi ce qu'il a dit. Ça veut dire qu'il va revenir, qu'il va juger le monde, que chacun de nous sera un jour devant lui et nous devons lui rendre compte pour ce que nous avons fait. Si nous sommes honnêtes, nous allons admettre que nous ne sommes pas ce que nous devions être. Amen. Je peux admettre ça. Nous avons tous péché. Nous méritons tous la condamnation et la mort. Mais la résurrection du Messie nous donne un vrai espoir pour la vie éternelle. Pourquoi? Parce que Jésus dit que celui qui croit en lui, qui se confie en lui, sera pardonné de ses péchés et ne sera pas condamné. La Bible nous déclare pas seulement que le Messie est mort et qu'il est vivant après sa résurrection, mais aussi pourquoi il est mort et pourquoi il est vivant. Il a fait ça parce que nous avons péché, toi et moi. Et puisque nous avons péché, nous méritons la condamnation. Dieu ne peut pas nier nos péchés. La justice exige que celui qui a péché meure. La mort est la conséquence du péché. Je vais montrer juste un petit clip ici. J'espère que ça marche. Cliquez une fois sur le clip. Voilà. Donc tu vois, le premier domino tombe. Après ça, 2, 3, 5, 10, centaines, des milliers. Je pense qu'il y a 80 000 dominos là. Mais tout a commencé à tomber avec le premier qui a tombé. La mort est les conséquences du péché. Péché, le péché est entré ce monde avec une personne, et puis deux, et puis plus, et plus. Et maintenant, regarde à ce monde. Le premier domino a tombé, a affecté des milliers, des millions après ça. Nous avons tous péché. Mais qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un qui n'a jamais péché et alors ne peut pas mourir meurt quand même. Il renverse la condamnation qui attend tout être humain et tout être humain qui choisit peut être pardonné, car le prix a été payé. La peine de mort, il l'a prise pour nous. Et tu vois maintenant que chaque domino qui est tombé se remet au début. Jésus a pris pour nous la peine de mort. Jésus s'est livré pour nos péchés. Romains 4, verset 25 dit, « Il a été livré pour nos fautes. Il est ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. » La résurrection est une preuve que Jésus a réussi sa mission. La résurrection est une preuve qu'il est un sauveur qui veut et qui peut nous livrer de la colère de Dieu du jour du jugement. La résurrection est une preuve que Dieu donne le pardon à ceux qui croient en lui, à ceux qui décident de le suivre. La résurrection est une preuve que Dieu donne le salut et la vie éternelle. La résurrection est une preuve que Dieu, que la résurrection de la mort est aussi pour nous qui suivent Jésus. Nous serons ressuscités des morts comme il a été. Nous aurons la liberté d'un corps immortel et la vie éternelle avec Jésus. Amen. Donc quand le péché est entré dans le monde, la création n'est pas morte sur le champ. Les premiers changements qu'ils ont connus étaient la peur. Adam et Ève étaient peur de Dieu. Les épines, les ronces, les malédictions sur la terre. Et troisièmement, la mort d'un animal pour faire les vêtements. Dieu a tué un animal pour faire les vêtements pour Adam et Ève. On dit qu'il y a deux choses qui sont certaines. Les impôts et la mort. Ma mère dit ça tout le temps. Il y a deux choses qui sont certaines. Les impôts et la mort. Tout le monde meurt. C'est inévitable. C'est difficile la langue française. Mais ce n'était pas immédiat quand le péché est entré dans le monde. Il a commencé un peu à peu. Après la résurrection, la mort n'a pas disparu à l'instant nous-mêmes, non plus. Mais nous vivons entre le déjà et le pas encore de la restauration de toutes choses. C'est déjà fait, mais ce n'est pas encore fait. Déjà, nous goûtons la vie éternelle quand nous sommes guéris d'une maladie, quand nous sommes délivrés de puissances ténébreuses. Il y a même beaucoup de témoignages de résurrection quand quelqu'un qui était mort est vivant, avec un corps mortel, mais des résurrections quand même. Reinhard Bonnke a vu des résurrections des morts pendant sa ministère en Nigeria. David Hogan, en Amérique centrale, il a eu plus que 100 résurrections. Même un médecin inconnu, mais disciple de Messie en Floride, aux États-Unis, a obéi le Saint-Esprit et prié pour un mort, là dans l'hôpital. Et cet homme mort est ressuscité. Et puisque c'était à l'hôpital, on avait tous les records médicaux pour vérifier ce qui s'était passé. Le royaume de Dieu avance. Et si nous n'avons pas encore ce que nous aurons quand Jésus revient, nous avons déjà, par le Saint-Esprit en nous, goûté un petit bout de la restauration que Dieu nous a promis. Peut-être les épines étaient le premier signe du péché sur la terre, et peut-être les épines seront le dernier signe à disparaître. Mais Dieu va tout restaurer. Jésus a payé le prix. Toutes charges comprises, tous frais compris, toutes taxes comprises, tout compris. Il a payé tout. Et il aura ce qu'il a acheté avec son sang. Le monde restauré, tous ceux qui croient seront restaurés. Amen. un de ces jours, le ciel va séparer et le Messie reviendra pour son Église. Les Moraviens, le peuple d'un mouvement de réveil au 18e siècle, disent souvent « Jésus va probablement revenir aujourd'hui. Et s'il ne revient pas aujourd'hui, il n'y aura plus d'âmes sauvées au coucher du soleil que maintenant. » Nous devrions penser comme ça. Nous devrions parler comme ça. Jésus va probablement revenir aujourd'hui. Et s'il ne revient pas aujourd'hui, il n'y aura plus d'âmes sauvées au coucher du soleil que maintenant. Amen. Presque tout le monde accepte que Jésus a existé, qu'il a été crucifié. Il y a autant de preuves que presque tout le monde, même beaucoup des athées, admettent cela. Mais la résurrection, c'est une autre chose. Parce que si Jésus est vivant, ça change tout. Mais sans la résurrection, notre foi est une illusion. En Corinthiens 15, verset 19. Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance en Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Mais, puisque Jésus est vivant, puisque la résurrection est un événement historique, nous pouvons nous aussi avoir la résurrection. En Corinthiens 15, verset 22. En effet, de même que tous les hommes meurent du fait de leur union avec Adam, tous seront ramenés à la vie du fait de leur union avec Christ. Puisque Yeshua est immortel, nous aussi, nous recevons immortalité. Nous nous échappons à la mort. Je ne peux pas donner à quelqu'un d'autre ce que je ne possède pas. Si Yeshua est mort, il a acheté pour moi le pardon des péchés, mais ça sert à quoi si je vais mourir? Mais puisque Yeshua est vivant après être mort pour moi, il peut me donner, moi aussi, toi aussi, la vie éternelle. Il est vivant et moi aussi, je vivrai.